L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 décembre et aujourd'hui on va parler des boîtes de Noël solidaires auxquelles a notamment participé le CCAS de Laval. Claire était sur place la semaine dernière pour la confection de ces boîtes cadeaux. Dernière interview aujourd'hui sur la vie associative mayonnaise consacrée aux initiatives qui ont vu le jour malgré tout en cette année de pandémie et de confinement, déconfinement pas évidente. Et puis une belle série de reportages sur la révolte massive des Chiliens, ce sera à l'antenne dès demain, interview du journaliste qui l'a réalisé en fin d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Une centaine de foyers sans électricité. Après l'épisode de vent violent cette nuit dans le département, près de 100 foyers étaient privés d'électricité ce matin, mais Enedis promet que les pannes seront réparées avant le réveillon de ce soir. Un réveillon qui se fera sans alcool, pétard et carburant en récipient sur la voie publique, puisque le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, a pris un arrêté hier qui interdit l'alcool sur la voie publique à partir de 20h ce soir. Interdit aussi les feux d'artifice dans l'espace public, les halls d'immeubles ou vers les habitations, et ce jusqu'au 3 janvier. Vous ne pourrez pas non plus acheter ou vendre du carburant dans des récipients transportables jusqu'au 2 janvier. La vente de bouteilles de gaz, quant à elle, est limitée à une par personne. Encore un peu de patience pour rouler à 90 km/h dans le département. 228 km de route départementale devaient passer de 80 à 90 km/h au 1er janvier, une décision votée par le Conseil départemental de la Mayenne en octobre, mais la commission consultative est repoussée de fin décembre à mi-janvier. Le passage à 90 km/h devrait donc être effectif au plus tard au mois de mars. Plus qu'une semaine pour participer à l'enquête sur la mobilité douce à Cran. Des questionnaires anonymes dédiés aux habitants sont disponibles sur le site de la ville de Cran et à l'accueil de la mairie. Les Cranais sont-ils souvent à pied, à vélo? Réponse en janvier puisque l'enquête se termine le jeudi prochain, le 31 décembre. Objectif des élus de la municipalité, en apprendre plus sur les déplacements des habitants pour créer une voie douce qui traverserait d'est en ouest la ville. Permanence gratuite d'un avocat, ce sera le 6 janvier prochain. Le Conseil départemental d'accès aux droits de la Mayenne propose une permanence téléphonique le 6 janvier à 14h, assurée par un avocat du barreau de Laval. C'est une information de premier niveau, bien sûr. Mais pour cela, il faut vous inscrire avant le 5 janvier au 06 24 22 74 40 ou par mail à cdad.mayenne@gmail.com. Appel à bénévoles pour des ateliers informatiques à Château-Gontier. Le centre social du pays de Château-Gontier organise de nouveaux ateliers d'informatique à partir du mois de février. Il recherche des bénévoles pour encadrer deux fois par mois un petit groupe de personnes débutantes qui veulent se familiariser avec Internet pour leurs démarches du quotidien. Pas besoin de diplôme, mais une aisance relationnelle et une bonne connaissance des outils informatiques sont nécessaires. Inscription auprès du centre social au 02 43 09 50 52 ou par mail à centre.social@chateaugontier.fr. Et puis si vous êtes en vacances, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas si vous avez du temps, une petite idée d'exposition intitulée « Girls on Winter » à la galerie située place Paul Doumer à Château-Gontier. Trois artistes exposent leurs œuvres, Atsuko Ishii, qui fait des gravures, la céramiste Valérie Courtet et biche Rosalie Nguyen, qui crée également des gravures. L'exposition est visible jusqu'à fin janvier, de 14h30 à 19h les mercredis et vendredis, et de 10h à midi ainsi que de 14h à 19h, ce sont les jeudis et samedis. Profitez des lumières de Laval depuis chez vous. Et oui, là, Noël, c'est ce soir et demain, mais on a peut-être envie de profiter des lumières de la ville, même si on ne peut pas forcément sortir, entre autres à cause du couvre-feu fixé à 20h. En tout cas, on peut profiter des lumières de Laval depuis chez soi grâce au petit parcours interactif que propose la ville de Laval sur son site internet qui permet de voir ses illuminations cette année sur le thème de la plume de Pan. Et puis sur la route du Vendée Globe, Maxime Sorel ferme la marche dans le groupe de tête. Il est toujours 10e à 447 000 nautiques du leader Yannick Bestaven. On en parlait en début d'émission, des colis de Noël offerts aux sans-abri. Certains n'auront peut-être pas la chance de trouver plusieurs cadeaux auprès du sapin ce soir ou demain, surtout lorsqu'on vit à la rue. Alors pour leur donner du baume au cœur, le CCAS de Laval a mené une nouvelle action présentée par Soline, assistante sociale, interrogée par Claire.
On est en train de préparer une action avec la maraude du 115 pour les personnes sans domicile fixe. On prépare des cadeaux, on va dire, avec voilà, quelque chose de chaud, quelque chose de bon, comme des chocolats, quelque chose pour l'hygiène aussi. Donc on a préparé aussi des gels douche, des déodorants, des choses aussi pour la vie quotidienne, comme des serviettes hygiéniques, des pinces à épiler. Qu'on prépare donc tout ça en décoration avec nos bénéficiaires du RSA, dans le cadre déjà d'actions qu'on crée tout au long de l'année. On a un profil vraiment plutôt de personnes seules, isolées, sans domicile fixe, où les fêtes de Noël, c'est compliqué, on va dire. Ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Le but aussi, c'est d'essayer d'amener d'autres souvenirs, de créer d'autres émotions que de la tristesse. Donc à travers les actions, l'échange entre les personnes, voilà, aussi créer du rapprochement et les sortir de cet isolement. De faire rencontrer plusieurs publics, plusieurs personnes, plusieurs profils, c'est aussi créer une dynamique pour les personnes, mais pour la ville de Laval aussi. On a eu quand même des dons qui ont été faits par le Secours Populaire, notamment sur des gants, des écharpes et des bonnets. Sur nos actions collectives sur l'année au niveau du CCS, on a un budget. Cette année, n'ayant pas servi à ce qu'on voulait, on a pu l'utiliser justement pour pouvoir acheter les chocolats, les décorations, les produits d'hygiène, enfin tout ça. Donc voilà, au lieu de perdre cet argent, il faut bien l'utiliser, et on l'a utilisé dans le but de que ça reste quand même une action qui ait une signification.
Marjorie François, adjointe aux solidarités et aux familles et vice-présidente du CCAS de Laval, a tenu elle aussi à participer à la réalisation de ces colis.
C'est important parce que déjà bon, pour pouvoir être aux côtés des agents du CCAS, être aux côtés de nos usagers, et je trouve que c'est important ce type d'action pour qu'on n'oublie personne en ces périodes de fête, et encore plus cette année qui a été difficile avec cette crise sanitaire. Ça leur montre qu'on est là et qu'on pense à eux, et que voilà, ils font partie de Laval et voilà, de nos habitants, et qu'on est là pour eux. Je suis du monde associatif, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, et c'est les valeurs que je défends, c'est la solidarité, donc c'est normal.
Catherine Romanesi, directrice du CCAS de Laval, explique le but de cette opération.
C'était pour fêter Noël, et c'était pour quelque part remplacer le repas de Noël qu'on organise tous les ans pour les bénéficiaires de RSA qu'on accompagne. Ce sont les travailleurs sociaux du CCAS qui ont organisé cette activité et qui livreront eux-mêmes les cadeaux, de façon aussi à pouvoir mieux identifier les personnes qui sont dans la rue, pouvoir éventuellement les repérer, voir si ce sont des personnes que nous suivons au CCAS, et pouvoir ensuite éventuellement les orienter vers un dispositif qui permet un accompagnement plus soutenu. L'action était importante, c'est que des bénéficiaires de RSA effectivement participent aussi eux-mêmes à faire en sorte qu'on puisse quelque part offrir quelque chose, et même peut-être aussi améliorer la situation d'autres personnes qui sont aussi en précarité. Donc pour eux, ça a vraiment un sens, effectivement, et quelque part, ça les valorise aussi. Alors on a prévu, en fait, pour une trentaine de personnes, donc ça dépendra évidemment en fonction de la tournée de la maraude, hein, puisque avec le Covid et pendant cette période hivernale, il y a quand même une attention qui est portée pour faire en sorte que les personnes aient un hébergement de proposer. Et c'est vrai que du fait qu'on est aussi en période de Covid, il y a des appartements qui ont été captés pour pouvoir faire en sorte que les familles ne soient pas à la rue. Et il y a encore effectivement des personnes qui préfèrent parfois rester, ne veulent pas en tout cas aller dans un hébergement d'urgence. Hein. Donc tout l'intérêt de la maraude, c'est pouvoir malgré tout les mettre à l'abri et veiller quand même à ce qu'ils soient aussi protégés, en particulier pour les femmes, hein, pour qui la rue est vraiment un épisode extrêmement difficile et dangereux aussi pour elles.
L'opération a permis donc non seulement de rassembler les bénéficiaires du RSA autour d'un même projet, mais aussi d'identifier les sans-abri à Laval. Au total, avec les dons de particuliers, plus de 700 boîtes de Noël ont donc été récoltées dans la ville. Dernière interview de notre semaine spéciale association à découvrir d'ici 3 minutes après avoir écouté Ida May avec Deep River.
Cannibal moving on the water. I was the moon and the river and the rapture. Mrs. Mississippi Cavalier, crashing through the May Queen chandeliers. Blacksmith hands aching just for being there on dry land. Clattering stone, rattling bones, step into the beat of an honest tone. You and me, my baby blue, the concrete jungle without our shoes. Oh my, you get to the city, gotta get a job, walk those streets so your feet thrive. White shirts, clean teeth, comb hair tie, still be at the bottom of the welfare line. I tried to be a weatherman, tried to mix drinks, took out lunch to learn to think. It feels fizzing up my brain, stayed unemployed as the fall rain. Oh my, deep river bottom blues, deep river bottom blues, yeah. Mr. Banks said he could help, but I could see his teeth clicking like a tiger before fresh meat. Compound interest, FDIC, nothing in this town ever came for free. So miss the wind, long through the rushes, I so miss the river, some riding like a touch, just lost in someone else's prayer. Trapped between the cold earth and the air.
C'était Deep River de Ida May sur l'autre radio. Évidemment, vous écoutez l'AGT du local. C'est l'heure de la quatrième et dernière interview consacrée aux associations et aux acteurs et dispositifs qui peuvent les aider dans le département, avec un tour des initiatives aujourd'hui mises en place cette année malgré un contexte compliqué. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Dernier temps en effet de la semaine sur les associations en Mayenne. Et pour terminer sur une note positive, on va s'intéresser à des initiatives, des réseaux qui, malgré le contexte compliqué de 2020, ont tout de même vu le jour. Pour commencer, on va s'intéresser à un réseau dans un secteur très touché cette année par la crise sanitaire, le secteur culturel. Et pour nous en parler, Steven Jourdan, chargé de coordination à Un singe en été, basé sur Mayenne. Bonjour.
Salut.
Donc ce réseau a vu le jour en début d'année et regroupe les organisateurs de festivals mayennais, c'est ça ?
Eh bien, alors c'est oui. Donc on a, en gros, c'est le collectif des festivals mayennais. En gros, ça c'est parti au tout départ du début du, enfin, début du premier confinement, avec ce plein d'interrogations que pouvaient avoir tous les événements, des gros qui du coup, eux, avaient des informations par le biais des syndicats sur les mises actuelles ou autres, qui pouvaient du coup faire remonter ou redescendre en tout cas d'autres ces informations-là aux petits qui, eux, n'en faisaient pas partie. Donc en gros, ça a débuté comme ça, avec des visios, on se retrouvait à 40, 45 avec tous les événements, donc ça va de du VNB Festival jusqu'au plus petit qui semble être le festival vin et fromage. Mmh. C'est hyper intéressant, c'est la première fois qu'on arrive à mettre autour de la table tous ces acteurs-là qui ont des objectifs totalement différents avec le général, des dynamiques qui sont pourtant assez proches. Ça a évolué après petit à petit sur comment s'en sortir avec 2020 et comment réussir à exister et quand même à proposer des choses. Toutes les idées ont un petit peu été utilisées, on a essayé, on a malheureusement peu réussi, parce qu'on a eu l'épisode du mois d'août qui a un peu rabattu le caca à tout le monde, malheureusement. Mais on a quand même tenté de mettre en place une cagnotte en ligne, alors qu'il n'y avait pas pour objectif forcément de venir en aide au festival directement, mais plutôt de se dire on profite du fait d'être tous autour de la table pour monter un nouveau projet qui nous sera utile et qui sera utile à tout le monde à terme aussi. Et donc on est arrivé sur un dispositif qui s'appelle le DLA. Donc, et donc là l'idée, c'était de travailler sur une ressourcerie culturelle.
D'accord.
Donc le principe, c'est très large, ça peut être très large en tout cas, mais l'idée, c'est le circuit court de prime abord, et donc faire en sorte que des achats puissent être mutualisés, que des scénographies de festivals puissent être mutualisées. Alors quand je parle de mutualisation d'achats, ça peut aller de la technique, des toilettes sèches, des gobelets, enfin il y a toutes ces petites choses-là qui coûtent vite, mine de rien, très cher à un événement, et qui sont en plus de ça souvent multipliées d'un événement à un autre, ce qui n'est pas forcément très utile. Donc l'idée, c'est un peu de rationaliser tout ça et puis de créer un espace d'échange autour de l'ensemble. C'est plutôt chouette et ça augure de belles nouvelles choses pour 2021, issues de cette année de merde 2020.
Le terme est tombé. Une initiative dont on suivra la réalisation en 2021. Est-ce que ce genre de dispositif, de réseau, de collaboration existe dans d'autres départements ou est-ce que c'est juste en Mayenne ?
Alors, je ne veux pas être méchant, mais je pense que ce serait compliqué ailleurs qu'en Mayenne. On est très très bon en Mayenne sur la coopération. Et puis, étant donné que c'est un petit territoire, c'est une terre de festival très clairement aussi, avec plus d'une trentaine d'événements sur l'été en règle générale, enfin entre mai et septembre. On se connaît tous plus ou moins, on a tous des ramifications avec des bénévoles en commun qui gravitent de l'un à l'autre. Donc ça a pas mal facilité les choses. On avait tous envie depuis très longtemps, et je parle de très longtemps, c'est 10, 15, 20 ans même avant que moi je sois dans la boucle, de faire des choses ensemble. Il y a eu plein de petites tentatives qui ont préfiguré justement ce gros rassemblement-là. Donc non, c'est la première fois à l'échelle d'un département en tout cas, que des événements qui sont aussi éloignés les uns des autres arrivent à se rassembler pour mettre en place un effort commun au service de tout le monde.
Mutualisation, réseau, partenariat. Et bien justement, on se tourne maintenant vers Cédric Maillet, directeur du centre social Nulle Part Ailleurs à Caen. Bonjour.
Bonjour Anthony. Et c'est ça exactement, centre social associatif intercommunal.
Et le partenariat qui s'est enclenché est un partenariat de mise à disposition de personnel dans les collèges de Caen.
C'est effectivement ça, en fin de compte, lors du premier confinement, nous on a trois axes forts au niveau du centre social. On a l'axe jeunesse, puisque la structure est née autour de l'accompagnement des jeunes dans leurs projets. Mmh. On a aussi un axe famille et puis aussi un axe accompagnement de la vie associative. Voilà, donc c'est un petit peu les trois grands axes qu'on développe, mais avec cette grosse particularité d'avoir une forte dynamique jeunesse pour les plus de 11 ans. Donc, et puis après, ça s'arrête pas, il n'y a pas d'âge. Pendant le premier confinement, donc on a eu pas mal, on s'est vite mis en route sur des animations plutôt en visio, un petit peu comme tout le monde, histoire de garder du lien et puis de préparer la suite. Et puis y a un animateur qui a proposé en fin de compte, est-ce qu'on peut pas éventuellement accompagner les collèges et favoriser le retour de tous les élèves. Cette proposition d'un animateur qui a été partagée par le reste de l'équipe. Et puis après, on a proposé nos services aux deux collèges. On a deux collèges là, sur la commune de Caen, entre autres. Les proviseurs ont répondu favorablement à notre proposition. Donc ça s'est fait tout le mois de juin, on va dire, avec la mise à disposition de deux animateurs le mardi dans un collège et deux autres animateurs dans le second collège pendant à peu près un mois. Voilà, et donc ça a permis à la fois le retour au collège d'un nombre d'élèves plus conséquent. Ça a permis aussi de se faire connaître au niveau des nouveaux jeunes, on va dire, qu'on avait peu vu encore. Et puis ça a permis de faire connaître aussi les nouveaux animateurs, puisqu'on avait aussi une animatrice qui était arrivée une semaine avant le confinement. Voilà un petit peu la démarche. Donc ça, c'est une action, je dirais, co-partenariale avec les deux collèges. Ça a permis aussi de renforcer nos liens. Et puis ça permet aussi de rebondir sur d'autres projets qu'on a déjà en partenariat autour de la santé, et autour aussi d'activités, d'accompagnement, de jeux, d'ateliers, etc.
Et par rapport à ce contexte sanitaire de 2020, est-ce que, comme on l'a vu dans le milieu culturel, il y a eu la mise en place de réseaux au niveau des centres sociaux ?
Alors, on va retrouver un petit peu pareil que ce que disait Steven. C'est-à-dire que le confinement a permis, en fin de compte, je pense, a été un accélérateur de la mise en place des réseaux, mais surtout du dynamisme et de la réactivité. C'est-à-dire que ça a été aussi, je dirais, des espaces ressources pendant ce confinement. Du fait qu'on pouvait plus se voir en direct, en présentiel, le distanciel a favorisé ça et je trouve, a favorisé la construction. Donc après, au niveau des centres sociaux, il y a différents réseaux. Il y a des réseaux au niveau, 49-53, puisqu'on est, la Mayenne est rattachée à la Fédération des centres sociaux du 49. Mmh. Voilà. Et puis après, au niveau de la jeunesse, il y a aussi le RAJ, réseau d'animateurs jeunesse qui existe en Mayenne, qui est porté aujourd'hui par la Ligue de l'enseignement, qui est co-porté d'ailleurs. Et voilà, ça a permis en fin de compte d'accélérer, ça a permis, en tout cas ça a été des espaces ressources pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aussi exprimer ses problématiques. Et ça a permis de structurer, je dirais. Ça a permis de structurer ces réseaux-là et vraiment de se rendre compte de l'importance. Donc un peu comme Steven, je pense que je reviendrai un petit peu sur ces paroles-là en disant qu'effectivement, en Mayenne, on a cette chance du milieu rural, je pense, d'avoir déjà des gens qui sont très coopératifs et qui se mettent ensemble pour pouvoir faire des choses.
Et oui, en effet, la Mayenne est du bon, on n'en doutait pas. Alors du coup, les suites à donner à tous ces projets-là, est-ce que peut-être des poursuites sur la thématique de l'accompagnement associatif, ça vous paraît important ?
L'accompagnement associatif, moi, ça me semble important aujourd'hui de s'y pencher véritablement, puisque le monde associatif souffre de la crise, hein, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi en termes de liens, tout simplement, de liens sociaux. Donc autant quand on est des structures avec des salariés, c'est peut-être plus simple de remobiliser parce qu'on a davantage de temps. Pour les bénévoles, c'est vraiment une question, je dirais, fondamentale. C'est comment se relever, comment se renouveler, comment relancer une dynamique après cette crise qui n'est pas finie et dont on n'a pas vu forcément tous les impacts aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui sur le territoire, on y travaille. On y travaille entre autres avec la collectivité. Il y a aussi un projet de structuration, en fin de compte, qui tombe un petit peu en même temps et qui tombe, je pense, bien, qui tombe à pic, on va dire.
Steven, un petit message peut-être ?
Les mêmes idées, c'est que du coup, on espère que justement 2021 soit après... On garde cette dynamique-là. C'est-à-dire que la dynamique qu'on a créée en 2020 qui a permis de créer, nous, le collectif, et puis je pense même à toutes les actions sociales dont on parlait tout de suite, j'ose espérer que ce sera des choses qu'on arrivera à conserver dans le temps et que ça ne s'arrêtera pas le 1er janvier 2021.
Merci à vous d'avoir participé à cette interview et je vous souhaite en effet une très belle fin d'année et plein d'espoir pour 2021.
Merci à vous.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
Et pour terminer ce tour d'horizon des différentes initiatives, nous recevons Camille Pétron, chargée de mission vie associative et citoyenneté numérique à la Ligue de l'enseignement 53. Bonjour.
Bonjour.
Donc l'initiative que vous allez nous présenter s'appelle les Exprasso. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors les Exprasso, finalement c'est vraiment une rencontre informelle entre bénévoles associatifs venus vraiment de tout le département. Pour se rencontrer, échanger, faire du lien. En fait, ça part d'un constat, se dire que sur certaines formations des bénévoles, etc., au préalable, sur des thématiques précises, j'avais un peu de difficulté à fédérer. Et que finalement, je me suis dit que plus on pouvait apporter de la convivialité et de l'informel dans une rencontre, plus en fait elle pouvait être fédératrice. Si on n'avait pas eu ce confinement, j'aurais aimé que ces rencontres puissent se faire dans un café. Donc, je voulais partir sur un 13h30, 14h30. Et puis voilà, autour d'un café, on échange autour de sujets divers et variés de la vie quotidienne des associations. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait apporter de la mutualisation, de l'interconnaissance, pour favoriser ensuite de la coopération sur le territoire. Le confinement est arrivé. Du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage de tout remettre en question tout le temps, d'annuler, de reporter. Donc, je me suis dit, on les teste en visio. Et ça fonctionne. Donc, les Exprasso, c'est ça, c'est tous les jeudis midi, de 13h30 à 14h30. On se retrouve autour d'un café et donc on fait du lien. Enfin, c'est intéressant parce que là, on a des associations, en fait, vraiment avec des objets associatifs complètement différents. On a des associations sportives, des associations d'apprentissage de langue étrangère. On a aussi d'autres associations plutôt autour de la culture qui viennent donc pouvoir rencontrer d'autres bénévoles. Et en fait, à chaque café, justement, ça donne naissance. Tiens, toi tu fais ça, c'est super, du coup je pourrais t'appeler parce que moi j'ai besoin de ça. Et en fait, moi je trouve que cette dynamique informelle, elle est vraiment géniale. Et puis là en plus, on a eu forcément des problématiques particulières. Les associations ont été particulièrement bousculées, traversées par ces différentes crises qu'on vient de vivre et qu'on vit encore. Donc du coup, c'était aussi un peu le moment de pouvoir vider son sac, exprimer ses difficultés, trouver ensemble des solutions, avoir une banque d'idées. Là, par exemple, celle qui me vient en tête, c'est que les bénévoles, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit guide de bonnes idées, de bonnes pratiques pour maintenir le lien malgré le confinement avec les adhérents et les adhérentes. Donc super, C'est super intéressant. Je suis vraiment ravie de cette dynamique naissante.
Donc, les Ex-Brasso, ce petit temps de rencontre entre bénévoles. Et il y a également un autre dispositif, parce que là, on passe maintenant, après le café, on passe à l'apéro. Et c'est bien que les apéros numériques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est?
Eh bien, du coup, c'est pareil. Ça part d'un constat aussi. Depuis quelques années, j'anime des formations à destination des bénévoles associatifs sur les pratiques numériques. Mais à chaque formation, j'ai une thématique phare. Créer son site internet, créer son logo, faire ses plaquettes, coopérer en ligne avec justement des drives, des clouds, etc. Et puis finalement, j'avais pas forcément l'impression de pouvoir répondre spécifiquement aux problématiques qui étaient soulevées ou rencontrées par les bénévoles. Du coup, ces apéros numériques, c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire, je vous accompagne sur les pratiques numériques, mais en fait, vous venez avec vos questions, avec vos besoins, vos problématiques, et ensemble, on y répond. C'est un peu cette culture un peu Fab Lab, Makerspace, qui est un peu dans l'air du temps, où du coup, on arrive avec un projet, une idée, une épine dans le pied, et en fait, c'est vraiment le collectif qui fait que du coup, on peut rebondir et...
Sortir l'épine du pied, en fait, en sortir et pouvoir marcher. Ouais. Ça se passe quand? Ça se passe comment?
C'était en tout cas tous les mercredis soirs du mois de décembre, de 18h à 21h. On vient juste de pouvoir ouvrir notre espace numérique populaire à la Ligue de l'Enseignement. Donc, on a 10 ordinateurs avec une petite salle de formation. Donc, c'est vraiment un accueil inconditionnel ouvert à tout le monde. Du coup, l'idée, c'est que ces apéros numériques ils puissent justement se dérouler dans cet espace. Or, encore une fois, le confinement, ça nous a mis des bâtons dans les roues. Donc, je les ai aussi proposés en visio. Et donc, voilà, il y a certains bénévoles qui sont venus avec des questions bien précises. Et du coup, c'est assez intéressant les retombées, encore une fois.
OK. Et donc, pour retrouver toutes ces infos, comment est-ce qu'on vous contacte?
Eh bien, donc, par mail, camille.petron@laligue53.org ou sur notre site internet également. laligue53.fr.
Donc des temps de rencontre, des temps d'échange, et même lorsqu'on ne peut pas se le faire en présentiel, on essaye tout de même d'utiliser les outils numériques à notre disposition. Merci beaucoup Camille, et puis ben, je pense à l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une dernière chose à rajouter?
Eh bien oui, à l'année prochaine. Voilà, j'ai quand même hâte de pouvoir retrouver les bénévoles du territoire et de pouvoir les accueillir dans nos locaux avec justement ce projet d'espace numérique qui vient de voir le jour. On aimerait aussi pouvoir y faire une petite bibliothèque à destination des associations. Enfin voilà, un espace ressources avec de la documentation pratique pour les assos. Donc voilà, à l'année prochaine, passez de bonnes fêtes et j'espère vraiment que voilà, on va pouvoir sortir de ces crises plus fort et plus audacieux encore.
Merci Camille Petron. Et donc oui, on prendra un café et un petit apéro en vrai dans l'espace numérique de la Ligue de l'Enseignement. Merci.
À bientôt. Merci.
Et c'est donc la fin de l'ensemble de ces reportages autour de la vie associative en Mayenne, sur ses réseaux, ses structures et ses dispositifs. Et moi aussi, je vous souhaite à tous, chers auditeurs, de belles fêtes de fin d'année. Et puis à toi aussi, Marie, profite bien et à l'année prochaine.
Merci beaucoup Anthony, à l'année prochaine évidemment, mais pas si vite, hein, l'émission n'est pas encore terminée. On revient juste après The National avec leur morceau « Where is her head ?».
Standing low, we're on the head.
National, Where is Her Head sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local, mais pas de quotidienne en direct demain, mais une série de reportages passionnants autour du Chili, une série intitulée Chile Desperto, avec mon super accent espagnol, et proposée par le journaliste Melaine Fanouillère. Après des débuts en radio en Catalogne et puis en Amérique du Sud, notamment en Bolivie, il a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux révoltes qui agitent le Chili depuis octobre 2019, révolte sociale, politique, féministe, c'est tous ces différents aspects qui ont accroché Melaine Fanouillère, on l'écoute.
Je me suis aussi rendu compte que c'était pas seulement un mouvement social comme on peut l'imaginer en France, avec des manifestations, des syndicats qui font grève, etc. Mais que ça allait beaucoup plus loin que là, quoi. Que c'était vraiment un mouvement qui reposait les bases d'une nouvelle société, un peu. Et donc quand j'ai vu que ce mouvement-là émergeait, je me suis dit, peut-être que ça remet justement ces valeurs-là en place, et puis il y a cette nouvelle génération qui arrive et qui justement n'a pas connu la dictature. Donc au départ, je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est de quelle manière tout le monde se sentait concerné. Moi, j'avais un peu l'habitude des mouvements sociaux en France où y a ceux qui sont contre la réforme, d'autres qui sont pour, ou éventuellement des gens qui, pas mal de gens d'ailleurs, j'ai l'impression en France, qui veulent pas prendre parti. Et là-bas au Chili, ce qui était marrant, c'était que peu importe l'endroit où on mettait les pieds, on parlait de ce qui se passait, parce que ça prenait une dimension telle que on pouvait pas l'ignorer, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis allé à une pièce de théâtre, toute la salle s'est mise à scander des slogans avant le début du spectacle. Après, je me suis baladé dans la rue, j'ai vu à quel point tous les murs de la ville de Santiago étaient couverts de graffitis avec des slogans, voire même des journaux collés sur les murs, des choses comme ça. Et en fait, il y a vraiment un retournement qui s'est produit. Et j'ai trouvé ça passionnant, quoi, que d'un coup tout le monde se mette à parler politique, tout le monde se mette à s'intéresser au sujet, à dire ben moi aussi j'ai des problèmes vis-à-vis de ça, oui, et puis les gens ont commencé à en parler entre eux, et donc partout dans toute la société, les gens disaient bon ben on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arrêter avec ce système et comment on peut en créer un nouveau, quoi. C'est parti d'une augmentation du prix du ticket de métro. Quelque part un prétexte, parce que c'était il y a eu une petite augmentation, c'était la quatrième augmentation de suite, donc c'était assez symptomatique de la situation dans laquelle les Chiliens et les Chiliennes étaient. Donc c'est parti sur des revendications sociales, en premier lieu donc les retraites, une augmentation des salaires, plein de revendications sociales qu'on peut imaginer, sur la santé aussi bien sûr. En fait, le mouvement est un peu retombé un mois après qu'il ait commencé environ. Et en fait, ce sont les femmes qui se sont levées et qui ont dit « on peut pas laisser passer cette occasion ». Parce qu'en fait, nos revendications à nous, les femmes, elles sont beaucoup plus larges que uniquement sociales. Et en fait, c'est tout un système patriarcal qu'il faut qu'on arrive à faire tomber, qui nous, en tant que femmes, détruit un peu nos conditions et qui nous fait vivre dans un système oppresseur, quoi, et patriarcal. Le peuple chilien s'est énormément solidarisé avec les peuples indigènes au Chili aussi, parce qu'il y a notamment le peuple Mapuche, il n'y a pas que ce peuple-là, mais il y a notamment le peuple Mapuche qui est dans le sud du Chili et qui, lui, lutte depuis 500 ans, en fait, contre la présence occidentale, et qui a été conquis que à la fin du 19e siècle par le Chili, et qui, depuis, est toujours en guerre intermittente avec l'État chilien, et qui subit une répression terrible, quoi. Et donc, le peuple chilien aussi s'est solidarisé avec cette répression, ils ont compris qu'est-ce que le peuple Mapuche vivait, et donc il y a une grande solidarité, donc il y a eu, ça s'est devenu une grande revendication aussi, le fait de solidariser avec les peuples indigènes. Et au final, tout ça, c'est concentrer sur une revendication principale qui est le changement de constitution. Parce qu'en fait, la constitution que Pinochet a mis en place, elle empêche de faire des réformes importantes. C'est-à-dire qu'il faut les deux tiers des sénateurs à chaque fois pour faire n'importe quelle réforme importante et qu'il y a toujours plus d'un tiers des députés qui sont contre les réformes. Ce qui fait que jamais, même des présidents de gauche ou quoi, jamais ils ont pu faire des réformes à cause de cette constitution. La revendication principale, c'était le changement de constitution. Et c'est pour ça qu'il y a eu un référendum en octobre, là, où justement, ils ont, à 78%, les Chiliens et les Chiliennes ont voté pour l'abandon de la constitution de Pinochet et pour réécrire une nouvelle constitution. Donc ça, c'est un peu la première revendication qui a été satisfaite, enfin, qui en tout cas est en passe d'être satisfaite. Ils sont encore en train de s'organiser pour savoir comment ils vont la réécrire et tout ça, mais c'est en bonne voie. Ça m'a donné une demi-heure pour chaque épisode, et 6 épisodes, donc c'est vraiment, c'est ça, c'est thématique finalement, avec d'abord les revendications sociales, ensuite, un peu l'héritage de la dictature, comment ça pèse aussi sur la lutte, la peur de la répression, tout ça, au moment où les militaires sont sortis dans la rue en octobre, comment justement la jeunesse a réussi à combattre cette peur de la répression. Ensuite, il y a un épisode sur le féminisme, un épisode sur les indigènes, et un épisode sur la première ligne, qui est en fait ce qu'on pourrait appeler les black blocs ici, c'est-à-dire que au Chili, c'est plutôt des rassemblements statiques que la police vient attaquer, plutôt que des marches. Et donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une première ligne qui se met devant le rassemblement et qui protège le rassemblement des forces de police qui attaquent, quoi. Et le dernier épisode, le 6e, c'est un peu sur les perspectives, donc un peu aussi une ouverture internationale. Pourquoi c'est intéressant à l'échelle du monde de voir que malgré un système néolibéral qui s'installe partout, il y a des possibilités de lutter. Et même 30 ans après une dictature, il y a encore des gens qui sont prêts à se battre et que justement les valeurs humanistes et solidaires et tout ça elles restent toujours dans la population malgré tout, quoi.
En ce moment, les manifestations ont repris au Chili pour demander la libération des prisonniers politiques. Cette série de reportages intitulée « Chile Desperto » est à retrouver dès demain et du lundi au vendredi la semaine prochaine à 12h15 sur nos ondes. Dernier objet, témoin de la mondialisation, enfin plutôt dernière chronique de 2020 sur ce sujet avec Swazik. Bonjour Swazik, alors vous êtes de retour avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode donc de cette série des objets pour un monde et on parle aujourd'hui de l'étonnante histoire de la laisse à toutou mais pas seulement.
Et oui, je pense Marie que comme moi vous devez vous demander quel est le rapport entre la laisse de nos chiens et la mondialisation. Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors remontons à l'Antiquité, en Chine, à Rome, en Perse ou encore en Égypte. La laisse est inventée pour faire défiler en toute sérénité les animaux exotiques, trophées de guerre capturés dans les territoires conquis. À la même époque, les chevaux, les enfants ou encore les esclaves sont banalement tenus en laisse. 1827, le pacha d'Égypte offre à Charles X une girafe, laquelle traverse à pied la France, de Marseille à Paris, attachée à son cornac par une très très longue laisse. C'est le tout début des laisses. 18e, 19e siècle, aristocrates et grands bourgeois européens se pavanent à côté de leurs chiens de race précieuse qu'ils attachent à une laisse pour éviter qu'ils ne partent batifolés et ainsi souiller la pureté de la race. À la même époque, à Londres, le chien de compagnie commence à occuper les canapés. Les serviteurs promènent alors les précieux compagnons à quatre pattes au bout d'une laisse. Et savez-vous pourquoi ? Pour échapper au kidnapping et aux demandes de rançon qui sont à l'époque des pratiques courantes. Toujours dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, les chiens errants se multiplient bien sûr. Alors pour y remédier, les autorités disséminent des appâts empoisonnés tout le long des trottoirs. La laisse empêche donc Médor d'aller grignoter quelques friandises empoisonnées. On le voit, ce sont donc des raisons sécuritaires qui finalement vont empêcher nos chers toutous d'aller gambader où bon leur semble. Ça me fait penser à quelque chose de plus contemporain, mais c'est un autre sujet. Les Trente Glorieuses, la laisse se démocratise, et en même temps que le chien de compagnie d'ailleurs. Emblématique du phénomène, en 1968, rappelez-vous Marie, même si vous n'étiez pas née, dans vol 714 pour Sydney, pour la première fois, Tintin attache Milou en laisse, pour l'empêcher de farfouiller dans les poubelles. 21e siècle, l'histoire de la laisse se poursuit, mais elle vise désormais nos amis les chats et s'étend à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Elle devient, c'est incroyable, un moyen d'empêcher les minous de s'échapper et de redevenir sauvages et de contribuer à la dégradation de la biodiversité, déjà bien mal en point avec la crise climatique. bien qu'encore marginale, la pratique infuse peu à peu aux États-Unis ainsi qu'en Europe urbaine de l'Ouest, notamment d'ailleurs par le biais des influenceurs sur Internet. Finalement, les chats commencent à connaître ce qu'a connu le meilleur ami de l'homme, l'enfermement et l'attachement. Depuis peu, l'Europe de l'Est, la Chine et le Japon se mettent à leur tour aux chiens et aux chats de compagnie. La laisse va donc pouvoir continuer son voyage autour du globe, confortant ainsi sa place dans le grand magasin du monde.
Merci beaucoup Soizic, on vous retrouve évidemment à la rentrée le lundi 4 janvier pour découvrir la folle histoire d'un nouvel objet à travers le monde.
30 minutes tous les jours.
Oui, tous les jours, c'est 30 ça, minutes.
Du lundi au vendredi sur l'autre radio.
Quatrième et dernier épisode de notre série auprès de Réauté Chocolat. L'entreprise basée à Château-Gontier-sur-Mayenne a été rachetée en 2015 par le groupe Buton. Puis c'est au tour de Montbana, une autre chocolaterie installée en Mayenne, à Ernée précisément, d'intégrer ce groupe, quitte à créer une concurrence entre les deux entreprises. Aucun risque, selon Violette Huolmé, qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
Chez Montbana, vous avez une boutique sur Laval. Ils en ont plusieurs en France, effectivement, mais on n'est pas du tout sur le même créneau, finalement. Nous, on est vraiment situés dans des zones commerciales, avec la politique du sachet de 100 grammes, pour avoir un très bon rapport qualité-prix sur ce produit, parce qu'on est sur une base de 33 euros le kilo pour nous incontournables. Par contre, chez Montbana, ils ont plus des chocolats et des napolitains, donc enveloppés pour aller avec le café. Ils sont spécialisés également dans le chocolat en poudre. Et également, ils ont une gamme de bonbons de chocolat pour réaliser leur ballotin. Donc effectivement, on a chacun notre propre identité. Nous avons été rachetés en 2015. Et ce même groupe a racheté l'autre chocolaterie chez Montbana. Chacun continue, comment dire, comme il était auparavant, de créer ses propres chocolats. Toujours d'innover, mettre des magasins en place, en franchise ou en succursale. On avait un objectif, c'est d'avoir une centaine de boutiques en France. Donc on va continuer nos projets après cette fameuse pandémie. J'espère qu'il va s'arrêter très vite pour pouvoir reprendre un petit peu et toujours créer des nouveautés pour nos clients. Innover également dans nos packaging, dans nos produits, c'est ce qu'on souhaite. Que le client, lorsqu'ils viennent au magasin, ça soit toujours un univers magique pour eux et de découvrir toujours de très belles choses, des nouvelles choses. Bah avec le confinement, oui, forcément, c'est tombé à Pâques. Donc forcément, on a mis en place le drive très rapidement pour justement pouvoir un peu écouler nos stocks. Là, c'est vrai qu'au retour depuis le 11 mai, les magasins étaient ouverts en permanence. On a pu voir que nos clients, finalement, revenaient au magasin et justement profitaient également de pouvoir déguster davantage de chocolat. On a passé de très belles fêtes, de fêtes de mère, de fêtes des pères, de la fin des classes. Les maîtresses, elles n'ont jamais été aussi gâtées que cette année. Faut dire, elles ont fait un travail remarquable. Donc du coup, les parents les ont, entre guillemets, à récompenser avec nos chocolats, nos biscuits. Donc pour nous, non, les clients reviennent, puissent déguster, ils sont vraiment très ravis. Et nous, on est très ravis de les revoir, surtout.
L'entreprise ne devrait pas avoir de mal à écouler ses 700 000 bonbons de chocolat produits pour Noël. Les autres épisodes de cette série sont à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. Et on termine avec quelques petites initiatives. Les habitants du quartier des Fourches à l'honneur dans une exposition à Laval. Une exposition extérieure, bien sûr, pour que tout le monde puisse en profiter. Stéphane Dardenne a fait le portrait d'habitants du quartier des Fourches à Laval pendant les vacances de la Toussaint. Dans un style à mi-chemin entre pop art et expressionnisme, ils sont tous rassemblés pour une exposition Place Pasteur à Laval, chacun agrémenté d'un mot choisi par les modèles: fraternité, solidarité, liberté. L'exposition est visible jusqu'au 4 janvier. On reste à Laval, où les résidents de la maison de retraite Notre-Dame de la Miséricorde auront sûrement un joli cadeau à Noël. Grâce aux élèves du lycée Haute-Folis à Laval, deux classes ont planché sur ce projet intergénérationnel avec 24 résidents qui recevront chacun une petite carte pour leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, ainsi qu'un petit cadeau façonné par les élèves, un photophore maison. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à l'antenne à 19h, la sagesse de Tugue autour d'une question: l'art peut-il nous affranchir de l'ordre du temps? Suivi à 21h de Rock My Soul. Vous l'avez compris, petite pause dans l'Agité du local qui revient le lundi 4 janvier à 12h15. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du local.